And now we move to the session on night, appropriately.
Is it dark out?
Okay, so we can start. On va avoir trois présentations sur la nuit urbaine, des présentations très différentes, variées, mais chacun, je vous promets, va être très, très, très intéressant. Alors, on va commencer par une présentation de la part de Luke Wodzinski. I first met Luke at a very, very interesting event about a year ago in Sao Paulo, where we were invited by a group called the Collaboratorio, a group of activists, artists, architects, to help them reflect upon what Sao Paulo as a city and what Sao Paulo's municipal government might do to change the night in Sao Paulo. In Sao Paulo, as you can imagine, the night brings up questions of security, it brings up questions of transportation, it brings up questions of coexistence. It brings up a whole range of issues that are legal, that are aesthetic, that are social. And we were privileged to be part of a group that over 3 or 4 days produced a manifesto of the night. And in fact, there were pages at the reception where you can get the URL on which you can, with which you can download the document, Manifesto de Nuit, Manifesto de Noche, Night Manifesto, which contains contributions by many, many people reflecting on the night. Luke Wodzinski was there. My life, I would say that my intellectual life, one of the turning points was a few years ago when I read a book that Luke has written, La Nuit, Dernière Frontière de la Ville, The Night, Last Frontier of the City, a book which very, very, very much inspired my own thinking about night. Luke Wodzinski is a very important figure in the reflection on the night, which has gone on over the last 10 years or so. Luke est géographe, enseignant, chercheur en aménagement et urbanisme à la est responsable du Master Innovation et Territoire à Grenoble, en France. Il a dirigé une agence de développement, une agence d'urbanisme et une agence des temps et des mobilités. He is the author of many, many articles, which he has, in many cases, generously placed online for us to read. And he's going to be speaking to us tonight with his reflections, further reflections on the urban night. So please join me in welcoming Luke Wodzinski.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Will de cette présentation. Will nous a parlé d'un manifeste de la nuit. Voilà à quoi ressemble ce manifeste qu'on a présenté avec Will et les amis brésiliens, qu'on a présenté à Sao Paulo il y a quelques mois maintenant, et puis à Milan il y a très peu de temps, et puis qu'on va continuer à présenter avec Diane aussi, Poitras, qui est là. Alors, lui, il m'a demandé de venir vous parler de la nuit, et je vais essayer de le faire, parce que sa commande était suffisamment large. Il m'a dit, viens parler de la nuit, ça va nous faire du bien, on connaît pas encore beaucoup la nuit, j'en suis pas sûr, mais je vais essayer de vous parler alors un petit peu de la nuit. Alors je voudrais le remercier à la fois pour son invitation à la nuit dans les villes, Will, et puis aussi pour sa capacité à mettre des valeurs de la nuit dans la rationalité du jour. Et c'est un petit peu de ça dont il sera question. Donc je vais parler doucement en français, vous aurez les supports visuels, et puis vous retrouverez la littérature en français ou en anglais sur le net. Alors d'où je parle? Je suis géographe. Hein, je le dis souvent, le géographe, c'est celui qui pose plusieurs questions, la question du où, du pourquoi, du qui et du quand est-ce que ça se passe. Donc moi, mon histoire à moi, c'est essayer de voir où et quand, notamment, on fait société. Alors je suis un géographe et normalement un petit peu un scientifique, mais j'ai aussi des convictions. Hein, je mets les objets à distance, j'ai mis un peu la nuit à distance, mais j'ai aussi un certain nombre de convictions. La première des convictions, c'est que la nuit a beaucoup de choses à dire au jour. Je crois que la nuit a beaucoup de choses à dire au jour. Donc travailler sur la nuit, Ce n'est absolument pas s'enfermer dans la nuit, mais c'est souffrir et s'ouvrir, souffrir non, mais s'ouvrir surtout à d'autres dimensions de la ville et de la vie. D'autres convictions sur la ville, et vous verrez que je suis déjà passé, mais en été à Montréal, il y a bien une vie après le jour dans nos villes, ce qui n'était pas toujours évident. Et puis si je m'intéresse à la nuit, comme certains d'entre vous, peut-être certaines d'entre vous, c'est aussi parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de regarder une ville la nuit qu'une ville le jour. Et on comprend bien mieux les tensions, mais aussi les potentiels. Donc je suis un petit peu un feignant. S'il y a des jeunes chercheurs parmi vous, il y a encore du travail à faire sur la nuit. Et il me semble que c'est plus facile que sur le jour. Alors des convictions, vous travaillez sur la ville, cities, the cities we need. Alors moi, je pense que cette cité-là, moi je l'aborde aussi avec un certain nombre de convictions. D'abord, je pense que la ville, c'est un lieu de frottement. Si on veut pas du frottement, faut aller ailleurs. Le problème, c'est où aller aujourd'hui. Puisqu'on n'a que la ville comme avenir, c'est Georges Perec qui nous a dit ça. La ville est notre avenir, on n'en a pas d'autre. Et c'est vrai. Deuxième chose, on parlera tout à l'heure de cinéma avec Diane Poitras. Je crois que la ville idéale, celle à laquelle on rêve, qui est toujours basée sur la cité athénienne, elle a jamais existé. Elle a existé un peu dans la tête des philosophes, elle a existé un peu dans la tête des cinéastes, mais je crois que la cité idéale n'a jamais existé. Je crois que la ville, ça a toujours été un lieu de maximisation des interactions, mais aussi un lieu de séparation. Donc elle nous aide, cette ville imaginaire, elle nous aide peut-être à avancer et à faire. En tout cas, c'est une proposition. Troisième chose, dans les métiers que j'ai fait, des métiers pratiques et métiers de l'université, j'ai retenu une chose, c'est qu'une ville qui attire, une ville où on se sent bien, hein, une ville qui se développe, c'est d'abord une ville où on se rencontre. Donc la question, c'est où et quand on se rencontre aujourd'hui dans la ville. On parlait tout à l'heure de mobiliser la mémoire. Il y a une maladie dont on est victime en France notamment, mais dans toute l'Europe, me semble-t-il, moins sans doute ici, c'est la nostalgie ou l'antépathie, c'est-à-dire le culte du passé. Et autour de moi, quand je parle de nuit et de ville, on me dit toujours « Ah, c'était mieux avant ». La ville, la nuit, c'était toujours mieux avant. Et on sort des images, des... Moi, je crois que avant, c'est ceux qui pensent que c'était mieux avant, généralement, oublient qu'avant, ils avaient 20 ans. Donc, ils avaient toutes les portes ouvertes dans la vie et toutes les portes de la nuit et de la ville ouvertes. Aujourd'hui, ils en ont moins, donc ils sont dans la nostalgie, puisque des portes sont fermées. Dernière chose que je voulais vous dire sur la ville en introduction, c'est le fait que pour moi, une ville, ça s'éprouve plutôt que ça ne se prouve. Moi, je suis un géographe à qui on demande de dire où commence la ville et où elle finit. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais généralement? Je pars à pied avec celles et ceux qui me posent des questions. Où commence et où finit la ville? Mais je dis, allons essayer de voir où elle commence et où elle finit. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le Grand Paris dans l'équipe de Jean Nouvel, on est parti 15 jours à pied marcher autour de Paris. Et peut-être qu'une aventure l'an prochain, peut-être avec Will et avec vous, pourrait être de marcher autour du Grand Montréal pour éprouver ce que c'est que ce Grand Montréal. On n'en revient pas indemne. Et surtout, on en revient avec beaucoup d'images, voire d'imaginaire. Mais j'ose plus parler d'imaginaire maintenant. Alors, deuxième chose, invitation à laquelle, dans laquelle je voulais vous entraîner, c'était l'idée qu'il fallait changer de regard sur la métropole. La métropole, pour moi, c'est une outre-ville, c'est une ville au-delà de la ville. Virilio et Depardon, les deux compères qui nous ont proposé cette définition il y a quelques années maintenant. Donc dans cette métropole, cette ville au-delà de la ville, je pense qu'il faut qu'on la regarde en termes de système de flux et pas de stock. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, et donc on a besoin de représentation de ces flux. Et ça permet d'avoir moins peur. Que la part du gâteau soit plus petite, puisque ça rentre et ça sort. Il y a des habitants qui rentrent, qui sortent. Il y a des entreprises qui s'installent, on parlait de ça tout à l'heure, puis il y en a d'autres qui quittent. Deuxième chose, pensez la métropole comme une pulsation. Il y a des individus, des activités qui viennent en journée, puis qui repartent le soir. J'aime bien cette idée d'une, d'une pulsation. Et là, voilà, il y a des limites floues, quoi. C'est pas des limites qu'on trace avec un stylo ni avec un canon. Je parle du canon parce que si vous regardez la définition de la frontière qu'a donnée Ambrose Bierce dans le dictionnaire du diable, il a défini le canon et il a dit que c'était un outil pour tracer les frontières. Donc moi, il me disait, il y a les frontières, ça se trace au canon. Mais aujourd'hui, dans des pays qui sont organisés en grande partie par les villes, les frontières sont évidemment plus floues. Troisième proposition, pensez, mesdames et messieurs, je l'oublie moi-même dans mes travaux parfois, que la ville, elle est faite d'habitants qui résident là et qui votent là, mais elle est faite en majorité de jour et la nuit de populations qui viennent là, mais qui ne votent pas là, qui votent ailleurs. Ils votent là où ils dorment. Donc on est déjà dans une démocratie du sommeil. Ça, c'est la première chose. On est dans une démocratie du sommeil, c'est-à-dire dans des territoires où on vote là où on dort et non pas là où on vit. Je vous donne une anecdote que je répète souvent, mais sur les Halles à Paris, qui est un hub énorme, donc où tous les systèmes de transport, le métro, le RER convergent. Quand l'architecte qui a mis en place les Halles, en tout cas qui les a repensées, a réfléchi sur l'aménagement des Halles, il n'a demandé, puisqu'on parle de participation, qu'est-ce que voulaient les gens, quelle ville ils voulaient, quelle ville ils avaient besoin. Il n'a demandé qu'aux associations qui habitent autour des Halles. Et jamais aux 400 000 personnes qui passent là tous les jours. On va sourire, on va dire « Oh, mais oui, mais c'est n'importe quoi, c'est pas normal ». On fait tous et toutes, en urbanisme, en architecture, la même chose. On pose la question à celles et ceux qui sont là et qui votent là, pour toutes sortes de raisons. Troisième ou quatrième proposition, il doit y avoir des architectes dans la salle, ou en tout cas des urbanistes, puisque j'ai vu l'exposition intéressante qui est au fond. Pensez que la ville, c'est aussi quelque chose à trois dimensions, qui va se transformer en fonction des saisons, des semaines, des jours et des heures. En France, on a un débat sur la ville. On veut pas qu'elle s'élève. On veut pas qu'elle s'enterre. Et quand on parle d'une ville enterrée, on parle de Montréal. Donc, voilà. Vous êtes un modèle pour beaucoup de villes aujourd'hui. Mes cartes ne passent peut-être pas. Je vais essayer de vous montrer. Okay. Je voulais vous montrer, quand on parle de représentation et d'imaginaire, je voulais vous montrer une carte déjà ancienne, si elle veut bien passer. Ouais. C'est un travail que j'ai fait il y a nombreuses années de cela, quand on m'a posé la question où et quand finit la nuit dans une ville. Ben je m'étais amusé simplement à représenter dans la ville les commerces en fonction des heures. Donc j'ai compté par endroit les commerces, et on voit ici une carte des commerces alimentaires en fonction des heures de la journée. Donc vous avez la même chose ici pour des cafés et des bars dans la ville. Et vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes horaires, mais que c'est quand même relativement quelque chose de relativement concentré. Voilà une carte qui a maintenant presque une vingtaine d'années. C'est terrible, mais je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup de ces cartes-là, qui nous aideraient à penser les rythmes et les temps de la ville. Alors je vous en montre une autre, moins drôle, mais toujours sur la même ville. J'espère qu'elle va fonctionner. Et vous verrez qu'on peut avoir une contre-ville, ou une ville en négatif. Ici, c'est la même ville, c'est Strasbourg. Pour ceux qui connaissent, dans le nord-est de la France, une des capitales de l'Europe. Ici, vous avez des feux de voitures, c'est-à-dire des voitures qui brûlent dans la ville. Alors c'est pas tous les soirs, hein. C'est sur une longue durée. Mais ces feux de voitures qui brûlent là où il n'y a pas de ville, là où il n'y a pas de bar, là où il n'y a pas de commerce. Donc ça brûle et il y a de la délinquance là où il n'y a pas de ville et là où il n'y a pas de mixité. Ces feux de voitures, c'est des actes de délinquance souvent faits par des jeunes garçons et non pas des filles dans l'espace public à un moment où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus d'encadrement social naturel, où il n'y a plus de centres socioculturels puisqu'ils sont fermés à ce moment-là. Je vous montre ces deux cartes parce qu'elles doivent permettre de réfléchir. Je dois vous dire aussi que ces données-là, j'ai dû les voler. Parce que là, la préfecture en France, on nous donnait pas ces informations. Donc j'ai soudoyé un commandant de police pendant des années. Je suis allé régulièrement manger avec lui pour qu'il me donne ces informations-là. Quand je suis allé aux États-Unis quelques années auparavant, on m'a donné, je suis rentré dans des commissariats, je ne connaissais personne. On m'a donné les informations et on m'a dit, mais nous, on vous les donne sans aucun problème parce que la sécurité, ça se co-construit. On dit qu'en France, on m'a dit, non, non, cette information, vous ne l'aurez pas parce qu'on ne veut pas stigmatiser des quartiers et des populations. Voilà comment l'approche culturelle de la ville. Alors pourquoi moi je me suis intéressé à la nuit? D'abord, je viens d'un pays où il faisait pas souvent nuit. Diane est venue dans ce pays. Pourquoi il faisait pas souvent nuit? Parce qu'on produisait de l'acier. Et l'acier en fusion, hein, c'est cet acier rouge qui brûle, enfin qui se solidifie petit à petit, bah ça rayonne dans le ciel et donc on voit pas les étoiles. Et dans ma famille, on travaillait dans la sidérurgie, dans la boulangerie. Donc finalement, c'était une famille où on dormait assez peu. J'ai été fasciné par New York quand j'y suis allé, j'avais 18-19 ans. Et cette fameuse cité qui ne dort jamais, alors c'est totalement faux, mais en tout cas, elle nous fait rêver comme ça. C'est pas très bon d'en parler aujourd'hui quand on parle de développement soutenable ou de développement durable, mais moi, elle m'a fasciné. C'est un imaginaire qui m'a mis en mouvement. Comme lui, je crois que j'ai été fasciné par le roman noir et le cinéma, et puis aussi par les salles obscures. Pourquoi j'ai travaillé sur la nuit? Parce qu'il y a une nuit des données. Essayez de savoir à Montréal qu'est-ce qui se passe exactement la nuit. Essayez de savoir combien de policiers de nuit par rapport au jour. Essayez de savoir combien de commerces de nuit par rapport au jour. Essayez de savoir un petit peu ce qui se passe. Alors que pour le meilleur et pour le pire, il y a une nuit des données. Et puis comme je suis géographe et que je suis né un petit peu tard, au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, je vous rassure, il me manquait une terra incognita, et moi, cette terra incognita, pour moi, ce fut la nuit. Alors, un goût certain aussi pour la nuit, et j'allais poser la question, puisque vous êtes encore là, à cette heure tardive de la journée de conférence, et vous, pourquoi êtes-vous là? Alors, pourquoi la nuit peut nous intéresser, et en quoi elle peut nous aider à réfléchir? D'abord, je pense que la nuit, c'est intéressant parce que c'est la compétence de tout le monde et de personne. Comme la question du temps. Quand vous travaillez sur j'entendais l'énergie ce matin, les transports, il y a tout de suite quelqu'un qui dit, ah, l'État, c'est nous, ou bien le Conseil général en France, ou bien la région, ici, un certain nombre d'autorités organisatrices. Sur la nuit, c'est la compétence de tout le monde ou de personne. Donc, il faut se mettre autour de la table. Ça oblige au partenariat. Ça oblige au partage. Ça oblige à la co-construction. On va aussi dépasser les questions techniques. Tout le monde a le droit de parler de la nuit, de son enfance, de l'insécurité, de la liberté. Et voilà, le débat peut s'engager. Je trouve intéressant aussi parce que la nuit, ça renvoie à l'homme. À un moment, on parle beaucoup de technique. J'ai eu peur un peu ce matin, ces critères sur la ville numérique et autres. Moi, je trouve que la nuit, bah, ça nous amène vers autre chose. Ça nous ramène vers une dimension humaine. Et à un moment, on m'a attaqué, quand j'ai fait mes premiers travaux, il y a plus de 20 ans, sur la nuit, on m'a attaqué parce qu'on m'a dit « Vous n'avez pas le droit de mettre la nuit en équation. Vous n'avez pas le droit de mettre la nuit en statistique, elle ne vous appartient pas et vous allez la déformer par vos statistiques. Vous allez même la
travertir.
Ouais, la transformer. Ouais, voilà. La nuit aussi intéressant parce qu'elle révèle l'homme. Si vous voulez comprendre une ville, et si vous avez la possibilité, bah, il suffit de la survoler en avion et vous verrez. Que sa structure de nuit vous permet de comprendre son organisation. Alors une question qui nous rattrape, je dis que c'est encore une réflexion de prospective la nuit, mais on constate qu'aujourd'hui que la nuit s'est invitée dans l'actualité du jour. Alors je pense aux nuisances nocturnes, il n'y a pas une ville que je traverse où il n'y a pas des problèmes de conflit entre la ville qui dort et la ville qui s'amuse. Partout maintenant, vous avez des nuits des musées, des nuits blanches. Enfin, pas tout est devenu, en tout cas dans les dimensions culturelles et festives, important de qu'on mette la nuit en avant. On a eu des pannes d'électricité géantes. Moi, je me souvenais qu'on disait ah oui, la fameuse panne d'électricité géante à New York en 73, où il y aurait eu un baby-boom ensuite lié à cette panne d'électricité. Alors j'ai vérifié, c'est absolument absolument faux, mais en même temps ça a nourri pas mal d'imaginaire. Et nous aussi en France, on a eu nos pannes d'électricité il y a 2-3 ans, et donc il y a eu des blackouts, et on s'est retrouvé sans lumière. Les violences urbaines, qui sont plutôt nocturnes, l'insécurité routière qui reste un cœur des problèmes d'insécurité. On a eu droit en France aussi au couvre-feu pour adolescents. J'avais vu qu'il y avait 300 villes aux États-Unis sous couvre-feu. Ben, en France, on a essayé ça aussi. Les illuminations. Il n'y a pas une ville aujourd'hui où on ne met pas de la lumière partout. Jusqu'à un ami, Yann Kersalé, qui travaille sur la lumière, il a parlé de sodomisation, des sodiomisation et sodomisation des villes la nuit. Travail de nuit des femmes ou des adolescents. Aujourd'hui, le travail de nuit des femmes, qui était interdit jusqu'à quelques années en France, est possible depuis 2001. Ouverture des commerces. Celles et ceux qui sont allés en Allemagne dans les années 70-80 pouvaient se rendre compte que ce que c'était qu'un dimanche en Allemagne ou une nuit en Allemagne. Aujourd'hui, c'est un des pôles de l'activité nocturne. Le métro de nuit à Paris, alors c'est pas encore 24 heures sur 24, mais malgré ce qu'on m'avait raconté il y a quelques années, on a réussi à le pousser. Puis quelque chose de très intéressant aujourd'hui, si vous voulez faire le malin à Paris, vous allez faire les soldes la nuit. Donc c'est devenu quelque chose de très couru. Alors les difficultés qu'on a par rapport à la nuit, c'est d'abord, pour renvoyer à ce qu'on a dit Merleau-Ponty, c'est quelque chose qui nous pénètre par tous les sens. Et c'est quelque chose qui nous enveloppe. Les poètes nous ont dit avant les scientifiques qu'on était enveloppés par la nuit. Donc c'est difficile de la mettre à distance pour l'étudier. Et puis on a peur aussi de la mettre en équation. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de travailler moi sur cette nuit? Bon, essayer de réfléchir un petit peu ce qu'elle était en termes de liberté et d'insécurité. J'ai mené un certain nombre de recherches en France et dans le monde là-dessus. Et puis j'ai mené un travail auquel je vous invite ici à Montréal, c'est une traversée de ville la nuit. Quand j'en ai eu fini d'écrire des thèses, des livres, qu'à part Will, peu de gens ont lu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de co-construire une démarche d'ouverture sur la nuit, pour pousser les gens à réfléchir sur cette dimension oubliée de la ville. Je les ai pris par la main et on a traversé des villes la nuit. Et j'en ai traversé une centaine à peu près en Europe. Donc c'est très intéressant parce que les élus, les techniciens, les urbanistes, les artistes, on traverse la ville et on part à la rencontre de celles et ceux qui l'habitent, des territoires et des habitants de la ville. Alors ça donne ce type de carte dans le monde entier. Intéressant aussi parce que la presse s'intéresse à cette question de la nuit et à partir de là, on peut tricoter d'autres thématiques. Alors qu'est-ce qu'on sait sur la nuit? D'abord, la nuit, la ville, la nuit, c'était quelque chose qui était oublié. En général, les élus oubliaient la nuit, même si le pouvoir public a toujours cherché à contrôler la nuit. Les techniciens parlent très peu de la nuit. En matière d'aménagement, de prospective, il y a très peu de choses sur la nuit. Les chercheurs commencent à s'y intéresser. Et dans la vie personnelle, dans votre vie à vous, il y a quelque chose de très drôle. C'est que, par exemple, si vous prenez votre agenda papier, votre petit agenda, vous essayez de prendre un rendez-vous après 22h, parfois 21h, il n'y a pas de place pour prendre ces rendez-vous. Votre agenda papier s'arrête à 21h. Donc les Italiens, quand je leur ai dit ça, ils m'ont inventé un petit bouquin qui s'appelle l'agenda de la Lune, pour pouvoir prendre ces rendez-vous de nuit. Alors, soit les rendez-vous ces rendez-vous qu'on prend, ils n'ont rien à faire dans la nuit, soit on doit les cacher. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant. Celles et ceux qui se sont beaucoup intéressés, qui se sont impliqués dans la question de la nuit, évidemment les artistes et les écrivains, on leur doit des belles pages de la littérature, alors ils nous racontent qu'ils travaillent la nuit, qu'ils écrivent la nuit, mais aujourd'hui on a une autre population qui s'intéresse à cette dimension oubliée de la ville, c'est les industriels, c'est les commerçants, c'est le tourisme, c'est le marché, je sais que ma collègue va en parler. Alors une injustice aussi, cet oubli de la nuit, parce que il paraît qu'à l'époque où les dinosaures étaient présents, ils restaient pour les mammifères qu'une toute petite part et un tout petit bout de temps qui était la nuit. Et d'une certaine façon, si on est là, c'est parce que à l'époque des dinosaures, il y avait cette alternance jour-nuit. Là, je renvoie à une thèse qui a été soutenue à Oxford. Alors, difficile d'approcher la nuit. Difficile d'abord parce que c'est un moment de sommeil. On est toutes et tous encore des animaux diurnes et pas nocturnes. La nuit, il y a un creux de température. On est fait pour dormir la nuit. Quelque chose d'intéressant, mais que je creuse pas, je vous le livre comme ça, je sais que ça fait toujours sourire Wilstrom, c'est que nuit, c'est non quelque chose. Nuit, c'est non 8, c'est no 8, c'est nine art, c'est no ote. Et vous pouvez le décliner, paraît-il, même en suédois, et ça fonctionne. Donc comme si c'était un déni de quelque chose. 8 heures extraites de quelque chose. Je vous laisse faire le travail. La nuit, c'est les peurs et les fantasmes. Je parlais de l'enfance tout à l'heure. C'est aussi la télé qui phagocyte nos soirées. C'est quand même important, ce temps qu'on passe devant la télé ou Internet, c'est beaucoup un temps de soirée. Et puis la difficulté à penser en 3D. Cette définition de la nuit, je vais vous en donner une, et on va voir qu'elle est mal adaptée à ce qu'est aujourd'hui une ville comme Montréal, par exemple. La nuit, généralement, on la définit comme la période de temps au cours de laquelle le soleil disparaît sous l'horizon. Ça, c'est la définition de base. Donc, c'est une discontinuité essentielle. Il suffit de relire les textes de base des différentes religions. C'est le temps des ténèbres et de l'obscurité. C'est le temps du sommeil. Et puis, c'est aussi le temps du repos social. La ville s'arrête la nuit pour des questions techniques, mais aussi pour des questions morales et culturelles. J'ai habité une ville, Strasbourg, où à 10 heures, il y avait des cloches qui sonnaient, le Zehnerklok. Et le Zehnerklok, c'était pour dire à une partie de la population qu'elle devait quitter la ville. D'ailleurs, ça a fait la joie et le bonheur et le développement économique des communes à côté. Pourquoi ? Parce que les populations là quittaient la ville et ouvraient des brasseries. Et les brasseries alsaciennes, qui, je ne sais pas si elles sont connues jusqu'ici, en tout cas, doivent leur développement à cette sortie de la ville. Un terme ambigu à définir. Tout à l'heure, mes collègues présenteront leur définition. Mais première chose, la nuit, c'est le temps de gestation. C'est le temps des conspirations qui vont éclater au grand jour. C'est la nuit qu'on complote. C'est le soir qu'on complote, qu'on fait basculer une majorité. Dans les dîners en ville, il se passe plein de choses. C'est rarement en journée, c'est plutôt le soir. La nuit, c'est l'indéterminé où il y a les cauchemars et les monstres. Vous voyez le rapport qu'ont les enfants à la nuit. C'est aussi quelque chose qu'on oublie quand on est dans nos disciplines très rigides. C'est le moment de la transgression et du plaisir. Notre rapport aux substances diverses et variées, nos rapports à l'autre, au sexe, et des rapports aussi qui ont fait l'objet de passages, et ces passages étaient plutôt des passages et des rites qui étaient nocturnes. C'est aussi la nuit, la période où tout paraît possible. On a tous et toutes refait le monde de nuit. On a réinventé le monde de nuit, et puis quand on est revenu avec ses idées en plein jour, ça marchait plus, quoi. Là, c'est un peu comme... C'est un peu comme les vampires qui ont peur de la lumière du jour. Il y a des idées qui sont développées la nuit, qui ont peur aussi de la lumière du jour. Dernière ambiguïté de la nuit, elle est bien résumée dans la définition qu'on donne celles et ceux qui font des mots croisés, des cruciverbistes. On définit la nuit comme pouvant être blanche et noire à la fois. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette nuit ? Très rapidement. D'abord, il y a une colonisation progressive de la nuit. Dans l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours voulu se séparer. Alors aujourd'hui, on parle de la ville et de la nature, et de la nature en ville. On a toujours voulu se séparer d'une part de la nature et artificialiser un certain nombre de choses. Et on l'a fait dans la nuit grâce au progrès technique, à la lumière, je ne ferai pas toute l'histoire, grâce à la police et à la sécurité, avec l'affirmation du pouvoir politique. Le pouvoir politique a toujours voulu contrôler la nuit. D'ailleurs, quand dans un pays... ça commence à bouger, qu'il y a des mouvements et que ça devient un peu risqué, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place un couvre-feu et on ferme tout. Donc ça veut dire qu'on a peur de la nuit. Aujourd'hui, donc, c'est l'économie qui, grâce à ces nouvelles conditions, ce développement-là, ce contrôle, s'empare de la nuit. Donc on est passé de la ville de garde, où la nuit, il y avait des fonctions qui étaient maintenues, la santé, la sécurité, au by night, qui est une invention du 19e siècle et pas du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui l'artificialisation de la ville. Ces pressions, elles augmentent, vous pouvez le voir dans vos villes respectives, mais la mise en lumière, le développement d'une industrie en continu, banalisation des services 24 heures sur 24, c'est évidemment plus un argument marketing, la fin du couvre-feu médiatique, ça s'est fait très tardivement en France, pendant longtemps les émissions qui s'arrêtaient la nuit, de radio, de télé, le développement du travail de nuit. Il y a 18% aujourd'hui des Européens qui sont amenés à travailler la nuit. Donc la ville la nuit, ce n'est pas que la fête. Et même quand c'est la fête, derrière le bar, au restaurant, il y a des gens qui travaillent. Développement des commerces de nuit, multiplication des loisirs nocturnes, les nocturnes culturelles et commerciales qui sont tout le temps aujourd'hui des moments où il faut absolument une ouverture tardive, la mise en réseau planétaire, l'assouplissement des lois. Avant, il faut savoir que la nuit, c'était un espace où il y avait des lois particulières. Si quelqu'un rentrait chez vous, que vous dormiez, et puis volait chez vous et que vous répondiez en le tuant, vous aviez des circonstances atténuantes. C'est plus le cas. Avant, on n'avait pas le droit de perquisitionner la nuit. Maintenant, on a le droit de perquisitionner la nuit. Donc ce statut qui était particulier ne l'est plus vraiment. Développement des nuits thématiques, vous avez les vôtres ici. Développement des services de mobilité nocturne, même à Paris, même en France, ça bouge. Développement d'activités socio-culturelles de nuit et de services. Je ne sais pas si c'est très bien, mais il y a développement aujourd'hui, par exemple, des crèches de nuit. Je ne sais pas si c'est une belle évolution, mais en tout cas, puisqu'il y a du travail de nuit qui se développe, il y a des crèches de nuit. Décalage de l'heure d'endormissement. On se couche de plus en plus tard et on dort de moins en moins. Donc on est encore des animaux diurnes, mais on est en train, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, ces évolutions-là, si vous les regardez, ben elles transforment la ville. D'abord, il y a des bornes temporelles. Moi, dans les villes que j'ai étudiées en Europe principalement, mais au-delà aussi, en regardant les indicateurs, on constate que plus une ville est internationale, plus elle fonctionne en continu, elle a des quartiers qui fonctionnent en continu. Et en gros, si on garde l'idée que la nuit, c'était un temps d'arrêt des activités, ce temps, il ne compte plus que 3 heures dans la vie d'une ville. Donc la nuit, comme un temps d'arrêt, ce n'est plus que 3 heures. Et ça peut être moins. Des bornes spatiales. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans un fonctionnement d'une ville à plusieurs temps. Il y a une ville qui dort, une ville qui travaille, une ville qui s'amuse et une ville qui s'approvisionne. Et tout ça, la nuit, ça doit vivre en même temps. Donc si vous dessinez un peu cette carte-là, vous voyez des conflits. Voilà, vous voyez des centralités qui évoluent. La nuit de Montréal, j'imagine qu'elle n'est pas la même en fonction des heures. Et puis on passe, ça c'est important, d'une logique de continuité. Dans la journée, on est dans la continuité. Alors peut-être parfois ici avec la neige, il y a des discontinuités. Mais on est la nuit dans une logique de discontinuité. Plus on rentre dans la nuit, plus on est dans des logiques d'îlots. Hein, c'est un peu une représentation d'archipel. Et à la fin, il reste un ou deux veilleurs dans le quartier. C'est une petite lampe qui reste allumée, c'est Will qui finit d'écrire un livre, ou c'est peut-être vous qui êtes en train de terminer votre comptabilité, ou que sais-je, mais en tout cas, plus on avance dans la nuit, plus on est dans des logiques d'archipel et de discontinuité. Alors, les résultats de nos travaux, il n'y a pas une nuit, mais des nuits urbaines, avec des rythmes. La nuit, elle a des rythmes. Il y a une entrée dans la nuit, il y a un début de nuit, il y a un cœur de nuit, puis il y a aussi une matinée, hein, quand on se croise, ceux qui sortent de la nuit et puis ceux qui rentrent dans la journée. Il y a aussi des rythmes saisonniers, je vais pas vous en parler ici, hebdomadaires, annuels, il y a des rythmes dans les nuits. Travailler sur la nuit de Montréal aujourd'hui, puis au mois de juin, c'est la même ville et c'est pas la même ville la nuit. La nuit, je pense que c'est important, c'est un territoire vécu, éphémère et cyclique. Il revient tout le temps. Donc c'est quelque chose, hop, de loin en loin qu'on retrouve. Les conflits, j'en ai parlé. Alors, je vous avais dit que pour explorer la nuit, je m'étais donné 2 clés. 1, je suis libre, parce qu'on me racontait dans la ville la nuit qu'on était libre. Et 2, la nuit j'ai peur, c'est dangereux. Alors j'ai regardé tout ça, et je dois vous dire que 1, dans la nuit, la liberté elle est limitée. Cette idée qu'on ferait tout ce qu'on veut dans la nuit, c'est faux. Parce que, un, c'est un espace-temps manipulé par la lumière et les médias, qui survalorise notamment les centres-villes. Deuxièmement, l'offre urbaine, elle est réduite. Plus on avance dans la nuit, plus c'est réduit. L'offre urbaine, elle se spécialise. L'espace collectif, il se réduit. Les coûts d'accès deviennent importants. Il y a une ségrégation par l'argent et par l'âge. On n'est pas tous, on n'a pas accès tous à l'ensemble des services qu'on veut, et l'accessibilité est diminuée parce qu'il y a de moins en moins de transport. L'insécurité, elle est relative aussi. Pourquoi ? Quand vous regardez les statistiques, vous rendez compte qu'on meurt pas plus la nuit que le jour. Moi, j'ai regardé, donc je suis allé voir les hôpitaux, j'ai demandé les statistiques, j'ai regardé l'état civil et autres. Finalement, vous savez quand est-ce qu'on meurt dans les hôpitaux ? On meurt au petit matin, quand il y a changement entre l'infirmière de nuit et l'infirmière de jour. L'infirmière de jour, de nuit, qui s'est battue, et ils sont peu nombreuses, les infirmières, la nuit. Puis à un moment donné, l'arrête, et là, il y a un creux, et c'est souvent là que les personnes traquent, c'est ce qu'on m'a dit. Délinquance de voie publique moins importante qu'en journée. Les cambriolages d'habitation sont moins nombreux. Les voleurs, ils viennent en pleine journée, puisque de toute façon, vous travaillez ici, vous dormez là. Donc ils viennent en journée avec un camion, ils déménagent, et c'est tranquille. Violences urbaines centrées sur la soirée. Les violences urbaines, c'est plutôt la soirée. Et puis les accidents de la circulation sont moins nombreux, mais plus graves. La citoyenneté est discontinue. Ça, c'est un point sur lequel je veux juste dire un petit mot. J'aime bien cette idée du droit à la ville de Lefebvre, qui avait été repris ensuite dans des chartes diverses et variées sur la ville, et notamment la charte du Conseil de l'Europe sur le droit à la ville. Et moi, je vous invite à reprendre cette charte et à regarder si la nuit, puisque un, on a ouvert les commerces, deux, on nous laisse travailler. Alors, à partir de ce moment-là, on a droit à réclamer. Ce matin, j'entendais parler d'un usager qui deviendrait un citoyen. Enfin, il y avait chez certains élus cette remarque. Est-ce qu'on a droit au logement la nuit? Est-ce qu'on a droit à la santé? Est-ce qu'on a droit à la mobilité? Est-ce qu'on a droit à l'emploi? Est-ce qu'on a le droit à la culture la nuit? Point d'interrogation. C'est une grille de lecture intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi au-delà de ces trois points? Un, on voit émerger une scène nocturne globale. Je reprends la citation de Willstrauss sur ce qu'est une scène, donc à la fois un groupe de personnes qui bougent de place en place, des places sur lesquelles ils bougent et le mouvement lui-même. Il y a une scène internationale aujourd'hui sur la nuit, puis il y a des scènes locales et des sociabilités temporaires. On voit émerger un espace public nocturne. Il y a un débat médiatique sur la nuit dans toute la presse, dans le monde entier. Et en France, on est allé jusqu'à mettre en place des états généraux de la nuit. Et ça, c'est une piste peut-être pour Montréal, qui est en avance sur une foultitude de choses, mais je sentais qu'il y avait peut-être ce besoin-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face au conflit qui n'avait pas été anticipé, on a mis tout le monde autour de la table et on a commencé à réfléchir sur l'état des lieux, donc dépasser la nuit des données, et puis après essayer de mettre en place des projets. Et on est allé dans certaines villes, à Amsterdam, donc aux Pays-Bas, à Paris depuis 2 ans maintenant, à Toulouse et à Nantes aussi, jusqu'à l'élection d'un maire de nuit. Moi, je trouvais intéressant que ces invisibles de la nuit puissent être représentés par quelqu'un. Donc, il y a des élections qui ont été mises en place. Et donc, un maire de la nuit. Pour d'autres villes, c'est des conseils de la nuit. Par exemple, à Genève, c'est un conseil de la nuit. Et parallèlement, aussi à Paris, il y a aussi un conseil de la nuit. Donc, on n'a pas encore de politique publique de la nuit. Mais on voit que dans tous les domaines, il y a des initiatives et on peut les séparer en trois logiques. Il y a une initiative qui concerne votre question, l'amélioration de la qualité de vie des habitants. On voit qu'en termes de transport, de services, il y a des efforts qui sont faits. Le développement économique, le marketing. Et puis aussi toujours cette tension avec le contrôle. Voilà. Donc on voit énormément de choses qui se font pour une ville la nuit ludique, animée. Puis on voit aussi des populations qui se ferment. Je vous donne un exemple. Toujours à Strasbourg, où je suis retourné il y a quelques temps, on m'a fait venir pour réfléchir à nouveau sur la nuit. Et là-bas, il y a une association qui filme les personnes la nuit qui font du bruit dans la ville et qui les met sur Internet. Donc une forme de dénonciation assez terrible de ce qui se passe dans la nuit. Des suites à ces réflexions, et puis je terminerai là-dessus, il y a un manifeste de la nuit qui s'est mis en place à Sao Paulo en 2014. Il va y avoir des assises de la nuit à Nantes en avril 2015, à Toulouse, des assises européennes. Enfin, vous voyez que petit à petit, il y a des choses qui bougent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour construire la nuit qu'il nous faut? Quelles pourraient être les pistes? D'abord, penser à un droit à la ville en continu. Puisqu'on a ouvert les vannes d'un point de vue économique, comment on peut être des citoyens dans ce temps particulier de la nuit? Deuxième chose, travailler à des politiques globales. Quand on dit, tiens, je travaille sur la nuit, mais on travaille sur tout. Le transport, la lumière, l'animation, les gares, les espaces publics, la culture. Enfin, on travaille sur tous les domaines. Réfléchir aussi à un urbanisme de la nuit. C'est très intéressant de s'intéresser à la nuit. Pourquoi? Parce que quand on y circule, on voit qu'il y a des notions importantes comme l'hospitalité des espaces publics. Un arrêt de bus en journée designé, vous savez, très à la Stark, Philippe Stark ou d'autres, superbe. La nuit, quand il y a du vent, qui fait froid, c'est plus tout à fait la même chose. Donc comment on peut le transformer? Quand on circule dans une ville la nuit qu'on connaît pas, la question de l'information, elle est posée. Il n'y a pas de carte de la nuit. La qualité dans un environnement difficile, la question de l'égalité. Vous voulez montrer à un étudiant qu'est-ce que c'est que le centre et la périphérie. Vous partez à pied du centre et vous allez vers la périphérie. Et on voit cette mise en périphérie très forte, notamment la nuit. La sensibilité. La nuit, à un moment donné, on perd 80% de nos perceptions, c'est-à-dire la vue, et donc on devient un peu animal. Il y a d'autres sensibilités, d'autres sens qui sont mobilisés. L'inattendu, la sécurité, l'enchantement, ça fait partie de ce qui pourrait être un urbanisme de la nuit. Troisième chose, des règles pour prendre soin. On parle de droit à la ville, il faut aussi définir un droit à la nuit. Un droit à la nuit comme espace de transgression, mais aussi un droit à la nuit comme espace de calme. On a des nuits blanches qui marchent très bien à Montréal, à Paris, ailleurs, mais on a peut-être droit à des nuits noires. Ce serait intéressant d'éteindre la ville et puis de circuler juste à la lumière de ce qui reste comme étoile. À côté de la nuit festive, il y a aussi la nuit des exclus. Il ne faut pas oublier que l'exclusion est très très dure la nuit plus qu'en journée. Et à côté des nuits extraordinaires, il y a aussi des nuits ordinaires. Alors, j'aimerais dire un mot sur ce qu'on a écrit dans ce manifeste de la nuit. Dans le manifeste de la nuit, on ne voulait pas simplement dire « intéressez-vous et colonisez la nuit ». On essayait de se dire que on va rentrer dans une logique paradoxale, hyper moderne, a dit Gilles Lipovetsky et d'autres. Comment on va faire pour éclairer la nuit sans la tuer ? Comment on va faire pour rendre la nuit accessible, mais garder son identité ? Comment on va faire pour développer la nuit sans créer des nouveaux conflits d'usage ? Comment on va faire pour animer la nuit et respecter nos rythmes biologiques ? Je rappelle simplement que celles et ceux qui sont amenés à travailler la nuit, ils ont une espérance de vie plus faible que celles et ceux qui travaillent en plein jour. Donc ce n'est pas rien d'ouvrir les vannes et de laisser se développer ce travail de nuit. Assurer la sécurité publique sans imposer un couvre-feu. Ouvrir la nuit en préservant la santé. Assurer la continuité centre périphérie, mais pas uniformiser la nuit. Réguler la nuit et conserver une place pour la transgression. Ne pas tout réglementer sans pour autant abandonner la nuit au marché. Développer l'offre de service et conserver le silence et l'obscurité. Concilier droit à la ville, droit à la nuit, investir la nuit, lui garder une part de mystère. On voit bien que c'est pas facile et c'est le sens de ce manifeste que vous pourrez trouver en libre accès sur la toile. Alors des apports concrets de tout ce qui s'est livré dans la nuit, moi je pense que il s'est inventé la nuit, c'est pas qu'un espace d'insécurité, j'ai essayé de montrer que ça n'en était pas un, c'est aussi un espace de tension, mais d'invention. Il y a des chartes de la nuit qui ont été inventées, il y a des correspondants de nuit, des chuchoteurs, des conseils de nuit, des maires de nuit, enfin il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger et qui peut-être peuvent vous donner des idées pour le jour, pour cette ville dont vous voulez, enfin qui correspondent à vos besoins. Alors la première proposition, c'est de penser à un urbanisme des temps. Pour faire savant, j'ai appelé ça un chrono-urbanisme. Mais comment on peut travailler sur les horaires de la ville plus que sur les bâtiments eux-mêmes? Donc ça, c'est un élément intéressant. Un urbanisme sensible, qui convoque la qualité, l'hospitalité, l'accessibilité des espaces. Une citoyenneté temporaire. Moi, je trouverais intéressant quelqu'un qui vienne à Montréal, qui reste 2-3 jours, devienne citoyen de Montréal pendant ces 2-3 jours et participe, via les technologies, à vos débats sur cette ville. Il a un regard très acéré pendant 2-3 jours. Après, il perd ce regard particulier. Pensez à une identité temporaire, puisqu'on est aujourd'hui tous des touristes quelque part. Et puis peut-être des gouvernements temporaires. Peut-être que demain, il faudra qu'il y ait des maires de nuit et que ces maires de nuit seront obligés de travailler avec des maires de jour et d'autres maires de nuit aussi. Intéressant aussi parce que la nuit va vous obliger à insérer les artistes dans la production urbaine. 2 minutes, et puis aussi nous amener à réfléchir à une nouvelle façon d'habiter la ville. Et je me disais, par rapport à ce qu'on a entendu, qui était parfois assez technique aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de réfléchir à quelque chose, quand on parle de la ville, qui soit pas un champ d'administration, mais quelque chose du domaine de l'exister. Et là, je renvoie à un philosophe qui s'appelle Henri Maldinet, et qui a parlé de l'exister comme le fait d'avoir sa tenue hors de soi. Et la nuit peut nous aider à faire ça. Je voudrais juste terminer sur l'ambiguïté et la schizophrénie dans laquelle on se trouve quand on réfléchit à la nuit, avec deux citations. Un, sans lumière, pas de nuit, et trop de lumière tue la nuit. Donc comment faire? Voilà. Et tous ces gens qui veulent une ville ouverte 24 heures sur 24, mais qui ne veulent pas travailler la nuit. Je passe sur Édouard Glissant. Je vous invite à relire les situationnistes qui ont fait des propositions pour les villes il y a des moments. Voilà. Et je vais pas inventer la ville la nuit, surtout pas Montréal à votre place, mais je me disais que faire des états généraux sur Montréal, ce serait de nuit, ce serait intéressant. Traverser Montréal la nuit, ce serait tout aussi intéressant. Voilà. Et je terminerai sur on peut rêver de nuits plus belles que nos jours, c'est une façon aussi de fabriquer des imaginaires pour la ville de jour. Merci beaucoup.
Merci, Luc.
On passe maintenant à une présentation de Diane Poitras.
Diane Poitras has worked in many different domains. She's worked in the field of cinema for many years. For some time, she was head of the Studio Acadie at the National Film Board, l'Office National du Film, in charge of the first documentary section in the NFB website, director of programming at the Cinémathèque Québécoise. She's now a professor in the, is it the École de Faculté, École de Communication? École des Médias à l'Université du Québec à Montréal, while pursuing her practice in documentary film. Her PhD thesis, to be defended in March 2015, addresses the presence of night in films and what it might express of relation to the world. Her documentary film, Nuit, which I'm delighted to have seen twice, and of which she'll be speaking tonight, was selected in the national competition section at the Rencontre Internationale du Documentaire de Montréal in 2014 and in the documentary feature competition at the Créteil Women's Film Festival in 2015. Please join me in welcoming Diane Poitras.
Merci Will, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Je vais faire une intervention, je vais partager quelques réflexions avec vous à partir d'un film, de ce film Nuit, qui a été réalisé récemment. Je vais vous montrer deux petits extraits et à partir de ça, donc, discuter d'un aspect très, très limité comparé à tout ce que Luc vient de couvrir tout à l'heure. Donc, je propose qu'on commence par le premier extrait. Est-ce que quelqu'un peut fermer un peu les lumières? Faire la nuit un petit peu? C'est pas possible de fermer les lumières?
Go for it.
Merci.
Bye. Bye. Bonne soirée.
Alors, ce premier extrait, donc, est tiré d'un film que j'ai réalisé en 2014, Nuit au pluriel, et qui tentait de saisir un peu ce qui constitue notre rapport au monde nocturne. Je vais vous faire une courte présentation du film, en fait, des intentions qui ont motivé ma démarche, et on verra un deuxième passage. En abordant une perception, en essayant d'aborder la perception nocturne du monde, je n'avais pas d'autre choix, me semblait-il, que de m'écarter des formes du documentaire classique. Il me fallait privilégier une narrativité qui soit cohérente avec la réalité nocturne, laquelle est tout autant ressentie que rationalisée. En effet, avec l'effacement des repères visuels, l'environnement nocturne perd de sa précision et les émotions y sont souvent exacerbées. Le temps ne s'écoule pas de la même façon, du moins on le perçoit comme ça. L'esprit cartésien tend à s'émousser dans la noirceur enveloppante. En aucun cas, donc, le film ne pouvait ni ne souhaitait prétendre entretenir un rapport objectif à la réalité. J'espérais plutôt qu'il puisse révéler diverses manières d'être au monde et favoriser ainsi la circulation d'interprétations en renvoyant d'autres images ou d'autres expériences vécues par, en rencontrant plutôt d'autres images ou d'autres expériences vécues par le spectateur. Ce qui excluait aussi d'inviter, d'interroger des spécialistes sur le sujet. Je voulais plutôt créer des moments où pourrait se développer une émotion ou un état qui contiennent en lui seul une présence de la nuit. Ces scènes ne devaient donc pas, comme c'est habituellement le cas dans le documentaire classique, servir de transition entre différents éléments, différentes interventions, ou agir de façon illustrative. De plus, j'ai renoncé aux commentaires hors champ, non pas par principe, mais parce que je souhaitais aller aussi loin que possible dans ces contraintes que je m'étais imposées, c'est-à-dire ne pas expliquer, mais faire ressentir. Enfin, l'œuvre dont je rêvais était de l'ordre d'une exploration de ce que j'ai fini par appeler des états nocturnes, c'est-à-dire des formes que prennent nos rapports à la nuit. Comme cinéaste, il m'apparaissait extraordinairement stimulant de tenter d'évoquer cinématographiquement ces états nocturnes et de les partager avec les publics qui voudraient bien jouer le jeu d'une expérience sensorielle. En choisissant l'extrait qui suit pour cette communication, j'ai voulu montrer divers rythmes qui traversent la nuit urbaine, qui s'y côtoient, des rythmes individuels et collectifs, des manières de socialiser, d'être citoyen, de communiquer avec ses semblables ou d'interpeller ses élus. Alors, on peut regarder le deuxième extrait, ça dure à peu près 8 minutes.
C'était quelque chose que je vivais de façon très intense. C'est-à-dire que pour moi, la photographie me permettait de sortir le soir et de photographier des gens qui, la plupart du temps, étaient en compagnie de d'autres personnes. Donc, il y avait comme cette espèce de deux mondes-là. La personne qui photographie qui est seule et des gens qui sont photographiés qui sont souvent en interrelation. Mais ça aussi, je vivais ça pas difficilement, mais il y avait comme un peu une. Je ne sais pas trop comment. La nuit, dans la ville, en règle générale, c'est déjà. pas beaucoup d'autres personnes, sauf là, c'est Jean-Baptiste, quelques événements très familiers. Mais sinon, c'est carrément la nuit est aux gens. Au départ, je trouvais ça le fun parce que j'avais l'impression d'être du même âge que les gens qui sont là, puis je suis resté dans les sujets. Mais plus je vieillis, plus je me sens étranger la nuit.
C'est peut-être la première fois où vraiment je sentais que je m'enlignais vers quelque chose de plus radical, de sentir que j'étais prêt à faire des actions, c'est-à-dire briser des vitres, et c'est con, c'est juste une vitre, c'est quelque part, mais que je me disais je suis prêt à me rendre jusque-là, je suis prêt à défendre des manifestants contre des policiers, je suis prêt à aller dans quelque chose qui pourrait me valoir un casier et tout. Je me sentais rendu là, je trouvais que c'était légitime. Et c'était la première fois aussi que je ressentais la force de mon éducation, dans le sens que je me suis toujours demandé, comme le moment où je vais avoir ma brique dans la main puis que je vais être sur le point de la lancer, est-ce que, rendu à ce moment-là, il y a quelque chose qui va m'arrêter ou est-ce que je vais être capable de briser cette vitre-là ou cette espèce de cristallisation de moi dans la société qui n'a jamais rien fait de mal.
j'aime la rumeur de la ville, tu vois.
Moi, je serais en campagne la nuit, là, ça me fait peur. C'est trop. Le silence est trop pesant. Là. Donc, ça me prend un bruit de fond. Là,
ouais. Il y a une magie dans la nuit là, que moi, je ne retrouve pas dans le jour, en tout cas. C'est pas le même monde. Bah, tu vois, quand il commence à faire clair, puis que. En fait, quand le métro ouvre, on dirait que ça, c'est comme vraiment le temps là où.
Ouais, il faut que j'arrête, parce que les gens sortent du métro, puis ils vont prendre un taxi, puis tout de suite, la dynamique est différente.
Eux, ils se lèvent, moi, je suis le bord d'aller me coucher. Tout de suite, on voit que le sujet de conversation, ça n'a pas rapport. Effectivement, c'est plus dur de voir ta famille, c'est plus dur de voir tes amis, c'est plus dur d'avoir une vie de couple. Voilà.
On ne parlera pas de sa vie de couple aujourd'hui. Je dois dire que c'est un petit peu difficile d'avoir une expérience immersive de la nuit en pleine lumière, mais bon, vous avez pu imaginer un peu ce que ça donne. Donc, si j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il montre la réalité urbaine contemporaine comme un lieu de rencontre entre divers usages de la nuit, comme Luc en a parlé tout à l'heure. Ici, on voit notamment diverses appropriations de l'espace nocturne dans des contextes de fête ou simplement de loisirs, mais on y perçoit aussi un rapport à l'espace public différent du jour. Comme en témoigne le chauffeur de taxi à la fin. Il parle de rumeurs, de bruit, même de magie. Il reconnaît une population spécifique à la nuit. Il dit c'est pas le même monde. Tant et si bien que, au point du jour, il n'a pas d'autre choix que de rentrer, se sentant déphasé par le rythme diurne. Enfin, dans cet extrait, on voit aussi une autre manière de s'approprier la nuit. Par la confrontation symbolique avec l'ordre public, c'est-à-dire les manifestations, bon, pour les gens de Montréal, vous avez reconnu les manifestations étudiantes de 2012. Dans La nuit désenchantée de Wolfgang Schivelbusch, il soutient qu'au 19e siècle, les diverses techniques d'éclairage urbain et l'amenuisement de la noirceur naturelle ont eu pour effet de modifier nos rapports à la sphère publique. L'éclairage urbain étant la fréquentation de la ville nocturne à de plus nombreux groupes sociaux, évidemment. On sait que jusqu'au 16e siècle, certaines rues des villes urbaines, notamment Paris, étaient entravées par des chaînes pour empêcher la circulation ou décourager la circulation nocturne et éventuellement la fuite des brigands qui auraient fait des mauvais coups. C'est dire la méfiance qu'on ressentait à l'égard des gens qui sortaient la nuit. Cette méfiance est exprimée abondamment dans le cinéma, c'est un des champs que j'ai étudié. C'est exprimée dans l'histoire du cinéma, autant dans le film de crime et d'horreur américain que dans le cinéma danois, le cinéma allemand, notamment le cinéma de l'entre-deux-guerres qu'on a appelé l'expressionnisme allemand. Et dans de nombreux autres exemples. Sans faire une histoire du cinéma, là, c'est pas mon propos ici, on notera cependant que les nouvelles vagues transforment significativement notre rapport à la nuit, au cinéma. Elles témoignent d'une évolution. Je pense par exemple aux jeunes de Shadows, le film de Cassavetes, qui vivent la nuit, mais sans pour autant être présentés comme des malfaiteurs. S'ils apparaissent un peu marginaux, c'est simplement que ce sont des artistes, des musiciens. Au cours du 20e et du 21e siècle, les élus, en effet, se sont employés à rendre les villes nocturnes plus accueillantes et plus sécuritaires. Donc, non seulement les artistes, non seulement la petite ou la grande bourgeoisie, mais presque toutes les couches de la population urbaine ont accès à la nuit. Je dis presque parce que on sait que les jeunes appartenant à certaines minorités sont facilement perçus par les forces de l'ordre comme étant menaçants la nuit. Mais de plus, si la nuit a longtemps été réservée presque exclusivement aux hommes, Alain Cabantous, dans Histoire de la nuit au 17e et 18e siècle, note que le nombre de femmes noctambules à Paris double dans la première partie du 18e siècle. c'est-à-dire qu'elle passe de 7 à 14%. Donc, si la nuit a longtemps été réservée aux hommes, on remarque bien sûr une présence accrue des femmes dans la nuit contemporaine. On observe aussi dans le film des familles et des jeunes enfants. Bon, ici, ce sont les feux d'artifice, mais ça va être la même chose dans deux jours avec Montréal en lumière. Même la nuit blanche qui programme des activités spécialement en fonction des enfants en début de soirée. Donc, on peut parler d'une démocratisation de l'accès à la nuit urbaine, avec des usages et des rythmes différents, du moins dans certaines villes occidentales. Mais comme le remarque un des personnages du film, bien que la nuit dans les villes ne soit plus aussi dangereuse qu'elle l'a déjà été, elle demeure surtout habitée par des jeunes gens. On associe souvent les jeunes noctambules à des excès de drogue et d'alcool, c'est pas toujours faux. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est une forme spécifique d'appropriation de la nuit par les jeunes, soit ces manifestations politiques. C'était pendant la production du film qu'a commencé la grève des étudiants en 2012. Donc, spontanément, je suis sortie dans la rue avec une caméra, je suis allée filmer presque tous les soirs lorsque les marches nocturnes ont commencé. Et je filmais sans trop savoir ce que je ferais de ces images, sinon qu'elle montrait un usage de la nuit totalement différent de ce que j'avais tourné et imaginé jusque-là. En ce qui concerne ces scènes, il m'est rapidement apparu au montage que j'omettrais la plupart des plans trop explicites faisant référence à une situation politique datée. Par exemple, les charrets dehors, charrets dégage, je les ai éliminés volontairement parce que je pressentais qu'il y avait là un rapport à la nuit qui dépassait le circonstanciel. Puis, toujours sans savoir exactement où est-ce que je m'en allais avec ça, puis j'ai tourné avec ce jeune homme qui apparaît au milieu de la séquence et qui m'a expliqué les perceptions différentes qu'il avait des manifestations diurnes et nocturnes. Les premières, disait-il, peuvent créer un consensus étendu entre des larges parties de la population. Effectivement, les grandes manifestations de jour, qui ont atteint parfois jusqu'à 200 000 personnes, avaient un caractère rassembleur, politique bien sûr, mais toujours un peu bon enfant. Il se trouvait d'ailleurs de nombreux manifestants qui venaient en famille et même avec des enfants ou des jeunes enfants. La nuit, par contre, les rassemblements, plus restreints, prenaient davantage des allures délinquantes, presque insurrectionnelles. On dérangeait plus que le jour, m'a dit ce garçon, dans une partie de l'entretien qui n'est pas restée dans le film. On troublait le sommeil des gens et on sentait qu'on était moins tolérés. Il est vrai que les marches nocturnes s'éloignaient parfois considérablement du centre des affaires de la ville pour traverser des quartiers résidentiels. Mais pourtant, les manifestations de jour pouvaient véritablement troubler les activités de la ville, les rues fermées, la circulation entravée, les activités ralenties de certains commerces. Bref, il est quand même étonnant que, dans son esprit, les manifestations nocturnes s'affirmaient avec plus de véhémence. En fait, je pense que le dérangement auquel il faisait allusion, m'apparaît surtout symbolique. Lorsque la manifestation se déplace du jour vers la nuit, elle semble en effet prendre un caractère plus dramatique dans son opposition à l'ordre social, qui est un ordre, comme le disait Luc, dicté par le jour. La nuit est consacrée au sommeil, au repos et à certains loisirs. Les choses de la cité, elles, doivent se discuter en pleine lumière. Et aborder le politique la nuit peut devenir menaçant. Le fait qu'il y ait eu systématiquement des manifestations tous les soirs et jusque tard dans la nuit pendant plusieurs semaines, voire des mois, montre l'importance que revêtait cette symbolique pour les étudiants. Ce qui nous renvoie à de très anciennes pratiques de contestation. Comme le montre Cabantous toujours, la nuit urbaine au XVIIIe siècle en Europe est un lieu de contre-pouvoir. Les noctambules, en défiant le couvre-feu, prennent plaisir à contrevenir aux règles de l'ordre public. Chahuts et attaques de domicile ou d'individus sont autant d'affirmations d'une liberté arrachée au pouvoir. Ce qui fait écho aux propos du jeune homme du film lorsqu'il évoque la possibilité de briser une cristallisation de son éducation. Ce garçon vit dans un régime politique évidemment plus libéral que celui qui prévalait au XVIIe siècle, Mais lorsque les frustrations et les tensions s'exacerbent entre le pouvoir et le peuple, ce dernier retrouve avec facilité, semble-t-il, des comportements et des stratégies qui remontent très loin, à très loin dans notre rapport à la nuit. Ainsi, Simone de Lattre, dans Les 12 heures noires, rappelle que les révolutions qui ont secoué les villes françaises tout au long du 19e siècle se fomentaient et s'exacerbaient habituellement la nuit, ce qui provoquait la crainte des autres citoyens et contribuait sans doute à accentuer un sentiment de pouvoir chez les insurgés. Ceux-ci se rassemblaient ou échappaient et échappaient aux forces policières à la faveur de l'obscurité nocturne. Chivelle-Bouche rappelle aussi qu'en 1789, on brisait les lampadaires pour les éteindre et qu'on y pendait les ennemis. Vous connaissez la chanson qui s'est rendue jusqu'à nous, « Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra à la lanterne ». L'éclairage des rues dans les grandes villes occidentales, en effet, faisait partie d'un arsenal de contrôle de l'État parallèle à son armée et sa police. Il n'est donc pas étonnant, dit Chivelle-Bouche, que les lanternes parisiennes donnent envie de les attaquer. Il poursuit au sujet du bruit de ces lampadaires. Au sentiment de puissance qu'il procure s'ajoute la satisfaction de mettre fin symboliquement à ce que la lanterne représente. L'obscurité qui régnait une fois la lanterne éteinte, représentait une part de désordre et de liberté. L'éclairage urbain était alors perçu comme un moyen de surveillance et de contrôle policier, bien plus que comme un dispositif pour assurer la sécurité des citoyens. En novembre 2012, les manifestants ne s'en prenaient plus aux lampadaires. Mais les marches de nuit, renouant avec d'anciennes traditions, se plaçaient dans le sillage historique de formes de résistance reliées à la nuit et favorisées par elle. Enfin, une dernière remarque en terminant, Cabantous souligne que le mouvement des lumières coïncide avec l'extension de l'éclairage, on parlait alors de bougies bien sûr, à partir de 1669 et tout au long du 18e siècle, contribuant ainsi à ce qu'il appelle la défaite du nocturne via la technique. Aujourd'hui, les diverses manières d'habiter la nuit, que ce soit pour le loisir ou pour éliminer les actions politiques, n'ont plus tellement à voir avec un désir de chasser les ténèbres, mais peut-être s'agit-il de renouer avec une expérience nocturne du monde. En ce sens, ces mouvements constituent sinon une critique de la modernité, du moins ce qu'on pourrait interpréter comme une tentative d'échapper à l'omniprésence des lumières, entendue au sens propre comme au sens figuré.
Merci, Diane. Et last but certainly not least, we have Andreina Cejas, who I think we met when we discovered each other's blogs about the night. She's a Venezuelan communications professional and public policy analyst currently working for the Emerging and Sustainable Cities Initiative at the Inter-American Development Bank in Washington, D.C. For the last 6 years, she has conducted extensive research on how cities can become safer and more productive by creating quality spaces for work and leisure during the night. And I could read her long list of accomplishments, but I think I would rather just begin to listen to her now, so I'll turn it over to you.
Thank you, Will, and thank you all for your time and for being here today. Hope this works. Let me see how it does work. Okay, great. So here I'm going to talk to you about, to continue this discussion about the urban night, I'm going to bring different perspectives, a slightly different perspective, because I'm going to talk about the night in the context of Latin America and the Caribbean. But first, to start the discussion, I want to tell you a short story. I want you to meet Mike. So Mike is a software developer, a 27-year-old software developer living in California. He works from home, and he works for clients who live in faraway places such as China and Japan. And that explains why Mike has a very strange and a non-conventional schedule. He wakes up every day around 2-3 p.m., including weekends, and then after that he starts working on his computer for hours until 8 p.m. At 8 p.m. is when his meetings start. So he engages in real-time conversation with other software developers in China and Japan, and he even participates in online forums to discuss his products. And sometimes around midnight he goes to the gym, or he grabs a bite at a 24-hour restaurant or diner around his town. Around 7 a.m. is when he calls it a night, And that's probably when the rest of the people in his city are waking up and starting a new day. So my schedule might sound a little bit strange, but it's interesting that thanks to technology and thanks to globalization and other processes, there's more people around the world for whom that 9-to-5 traditional office schedule is now a thing of the past. Technology and different inventions today have made possible processes and activities such as teleworking and home offices to become more common. And more importantly, thanks to technology and thanks to these processes, now services such as 24-hour dry cleaning, a 24-hour hair salon, or restaurants that open during the night have become more, there's a greater demand for them. And more than just a greater demand, there's an entire generation that now expects that certain services that are open throughout the night to be open also in their cities. And this is a generation called the millennials. So the millennials are all of those people who were born between 1981 and 1995, and they're considered to be technology savvy and very optimistic, and they prefer to live in an urban setting. Why? Because in an urban setting, they can walk rather than drive, and in an urban setting, they can find or have more access to 24-hour shops, restaurants, and services. So thanks to the millennials and thanks to these technological inventions, we have become to see that now the 24-hour city is a more common notion. But to what extent is that our cities really 24 hours? Or more importantly, what is a 24-hour city? What do I mean by this notion? So by 24-hour city, for the purpose of this presentation, I want you to understand that these are the cities that have gauged the relevance from a social and economic perspective of this specific time frame. What's the value of the night? From the social perspective, the night is the fundamental space for identity formation and for social interaction. Think about cafes that stay open late. Think about 24-hour libraries. Not only think about bars and restaurants, but also think about, for instance, now it's in vogue in some countries in Latin America to have nighttime races. So activities that happen at night, those are all opportunities for social interaction. And also, there are opportunities for creativity and for innovation. The night is a space that can help create a sense of belonging and identity for the youth in a city. And from an economic perspective, the nighttime economy is a great source of new jobs, and it's also a great source of additional revenue for city coffers. And additionally, it's an opportunity to revitalize urban areas and certain buildings or entire areas in the city that are not used after a certain time of the day. So understanding this economic and the social value, we learned that the night is a space with multiple possibilities. And these possibilities have been addressed and they have been studied in countries such as the UK, in France, in Australia. However, to date, they haven't been explored enough in Latin America and the Caribbean. I work for the Emerging and Sustainable Cities Initiative, which is a technical assistance program inside of the Inter-American Development Bank. And what we do is that we work with a group of cities, the ones in the map, around 40 intermediate-sized cities in Latin America and the Caribbean, and we help them think about what are their main challenges, development challenges, and how they can rethink and plan for their future. And the first thing we do when we work with each of these cities is that we help them, we ask them, what is it that worries them the most? We carry out public opinion surveys to ask citizens, what is their main concern? What's the biggest challenge that their city has? And it's not a surprise that most people in these cities point out that security is their biggest concern. So only 18% of the people living in this city, so only here are some megacities included as well as some intermediate-sized cities in the region. Only 18% of the people say that they feel safe when they walk around the city at night. And another concern is noise. There's 40% of the people in these cities that express that they're disturbed, that they're bothered by the noise in their cities. So these two elements, insecurity and nighttime noises, are two challenges that we have in Latin America and in the Caribbean to expand the nighttime. There are two constraints, and there are two factors that determine why there's a negative perception of the nighttime in Latin America and the Caribbean. So if you ask someone in Latin America, not a millennial, but if you ask someone else in Latin America what they think about the night, they're going to say something like this. It's what they picture. Or maybe something like this. Mess, chaos, very high cost for the municipalities to pick all this thing up after a big party the next day. So it's a challenge for Latin America and the Caribbean. This is what happens in the end, that we end up having empty streets during the night in most of our cities. So the question is, how can we challenge this perception? Fortunately, there's a group of optimists in the region who have started to challenge this perception, inspired by the Nuit Blanche in places like Montreal, in places like Paris, in places like Madrid. They have started to organize a series of events, of nighttime events, most of them with a cultural background or a cultural objective. The first one of them was Buenos Aires in Argentina. They organized La Noche de los Museos, which is the Night of the Museums, in 2004. And it's a very, very important festival. Last year, they gathered 1 million people in the city. They had a nighttime circuit. All the museums were open for free, and people from all ages participated in this activity. Buenos Aires was followed by Sao Paulo, that has its own cultural event, also very popular. This was followed by Caracas, which, surprisingly, it's one of the most dangerous cities in the region. I'm from Caracas, and I can tell you that this event is one of the most popular events in the city. It's still in discussion if it's going to happen this year. I hope it does happen this year, because it's one day a year that people have the chance to take back the streets, to take back the night, and to enjoy the streets of the city. Also in Peru, it has their own white night, the Noche Blanca. And even La Paz in Bolivia, they have their own cultural activities. In Santiago de Chile, students and young people take places like this, museums, and they spend the whole night watching projections and listening to music from DJs. And more recently, Bogota has La Noche en Blanco. So you can see all of these cultural events have helped raise awareness of the relevance of the night from a cultural perspective. However, our policymakers in Latin America and the Caribbean haven't still grasped the value, the economic and social value of this time frame. That is why I believe that there's a huge opportunity here. There's a huge opportunity in Latin America and the Caribbean to go beyond the Nuit Blanche, to go beyond these events that promote the night only once a year. And what I suggest, what I recommend, is that policymakers start thinking about how to design policies that invite people to live the night, not only one day and for socialization and to meet other people, but also to see the night as a space where you can work and you can live no matter what age you are, how old you are, I'm sorry, if you're male, if you're female, or what background you have. And the first thing that we have to do in order to make this happen, to make these cities in Latin America and the Caribbean become 24 hours, is to enable the environment, to create the conditions. And fortunately, I believe, I'm optimistic, and I believe that this is the right time to do so. Let me tell you why. So Latin America is changing. So just like the rest of the world, there's an urbanization trend, and Latin America is not staying out of this. Actually, Latin America is the second most urbanized region in the world, only after Europe. So more and more people are living in cities and are demanding this round-the-clock services. Also, our middle class is growing. For the first time in 2011, in Latin America, there were more people living on the middle class than living in poverty. So this is a very interesting factor that we have to take into account. And then our cities are becoming safer. I come from Caracas, and I know Caracas is not the safest city, and also San Pedro Sula is a big exception. But in general terms, cities like Lima, Mexico, and Bogota, 10, 15 years ago, it was unthinkable to go visit those cities. Today, they are very important tourist destinations for people all over the world. So our cities are, in general terms, becoming much more safe. So how can we go from this to this in Latin America? And from my perspective, there are three main pillars or three main things that we have to do in order to promote this nighttime economy or nighttime activities in Latin America and the Caribbean. So first, we need to create the infrastructure or the hardware in the cities. Second, we need the regulations or the software. And third, we need the institutions or the people behind it. So I'm going to briefly explain what I mean by each one of these and provide some examples. Infrastructure or hardware. By these, I mean, how do we create quality and diverse nighttime spaces? And those quality and diverse nighttime spaces are those that have the three L's. They have light, which means well-lit public spaces and well-lit streets. They have local transport. By this, I mean 24-hour subways or nighttime buses, car-sharing schemes or taxis available during the night, or even some employers that provide shuttles for their workforce at night. And then life. So by life, I mean it's impossible when you think about a livable, not a livable, but a vibrant city, it's impossible not to think about Jane Jacobs. And Jane Jacobs once mentioned that there are four main elements to make a city vibrant in general. So the first is mixed use, to promote a good balance between commercial and residential activities. Second element is to have short blocks, or to invite people to walk more in the city. Third element is to have density or a good concentration of people. And the fourth is to have a combination of buildings from different eras and from different styles of architecture. But to these four elements, I'd like to add a fifth. There's a fifth element, which is to promote greater interaction between what happens inside bars and restaurants and what happens in the street. And I'm going to give you an example of something that we are doing in Mar del Plata, in Argentina. So this is a very well-known street in Mar del Plata, Argentina. It's called Calle Güemes. It's one of the main commercial streets in the city. And what was done here is that the city identified that in this area, 80% of the space was being used by cars, and only 20% of the space was being used by pedestrians. There's something wrong there, right? So what happened was that we started working with the municipality, along with Danish Gehl Architects, the Danish firm, to find ways in which we could expand the pedestrian space and improve the quality of spaces for people rather than for cars. So we expanded pedestrian crossings, and we expanded also the sidewalks, and we created these small urban lounges. As you can see, these are temporary interventions, not very expensive. And the idea of them is they have two objectives. On one, to promote greater interaction between what's happening in the stores, in the shops, in the restaurants in the area, and to provide a space for encounter, for a meeting place, for people to mingle and to sit down. So thanks to these interventions, this street is very busy. It's busier than ever during the day as well as during the night. So you can see that it's not too hard that to design from the infrastructure perspective, we don't have to build a new subway or to make a subway 24 hours in order for a city to change its face during the night. A second pillar is regulations for software. And by this I mean, what are the licenses, the policies around the hours of operations for shops and for nighttime venues? One thing that we have to understand is that there are different economies that overlap during the night. I took this from a book by Roberts and Eldridge that talks about how to manage the nighttime economy in the UK. And it's really interesting what they say, because they say that there's different types of economies or activities. And we have to understand that by nighttime, we don't not only refer to the nightlife. You can see it's only a very small piece of the whole puzzle. So the nighttime economy also involves other activities such as shops and offices. So we have to think of regulations that involve all these activities, not only a small fraction of them. And I'm going to give you an example of how regulations can change the face of a city at night. And this example comes from the Caribbean, comes from Barbados. So Bridgetown, the capital of Barbados, it's a very interesting city because it's frequented by tourists from all over the world. One thing that happens to tourists when they get off their cruises is that they arrive to a city that is dead by night. So what the city is trying to do by promoting events such as Bridgetown Alive, it's an initiative that on one hand expands temporarily the hours of operation of certain shops and restaurants in the area, because the shops in Bridgetown, most of them abide by the same regulations such as offices. So people who work in a shop work from 9 to 5. So shops and restaurants shut down at 5. So they're proposing it to expand the hours of operation until 9 p.m. at least, and then simultaneously to work with local performers, local artists, and have free activities, entertainment activities in the streets. So in that way, you can concentrate a group of people during the night in the center of the city and make the city alive at night. So this is a temporary intervention that's happening in Bridgetown, but at least it's raising awareness of the relevance of changing the regulation to adapt it and to bring more life to the nighttime city. And then finally, we have institutions for the people behind these changes and behind these policies. It's crucial, particularly for Latin America and the Caribbean, to have security, to have the police forces on your side. You need a well-trained and a capable police forces that understand the relevance of the nighttime. And you also need the neighbors to be on board. You need neighbors and you need community groups that understand, that reflect on why the night is important, to help change the negative perception of the night. And also help report what's happening, what crimes are taking place, or what incidents are taking place. But I also need public-private partnerships or associations. There are many retailers associations in different cities, and businesses coming together and sharing their knowledge and helping shape the regulations and shape the way that cities are at night. I'm going to share it with you an example in just a bit. And then finally, local standards, such as, for instance, there's a very interesting example from the UK. In the UK, they have their own certificate for healthy or of excellency for nighttime economies, which is the purple flag. If you're a healthy nighttime economy, they give you the purple flag, and that means that your city, in this case Nottingham, has an excellent nighttime economy. It's interesting to have these standards, and in Latin America so far there's none, because they create certain parameters by which cities can compare themselves and improve the way that they manage their nighttime economies. So I brought an example from another city in Latin America, which is Asunción, the capital of Paraguay. This is a very, very recent example. So what happened in Paraguay is that the center of the city, it was also dead at night. And there's a huge project by the municipality now revitalizing this area. And so one day they contacted one of the retailers. And the retailers started talking amongst themselves, and they realized that they have many, many things in common. They all need more people to come to the city center to, you know, make more money. But also they were interested in reviving this area that's so beautiful, that has so beautiful architecture, and that was neglected by a great part of the city. So what they did is that these retailers came together. They created an association. It's called La Asociación para la Movida Nocturna in Asunción, which is the Association for the Nighttime Movement in Asunción. And they worked together in organizing an Oktoberfest, which attracted thousands of people. They have their own Nuit Blanche. It has a different name, but it's more or less the same. And they're doing all kinds of events and activities to bring back the life to this area of the city. And what's interesting is that this was not an option for people in Asunción. For young people in Asunción to go out at night to the center was out of the question. And now it's one of the main options and one of the main choices that they make. But to go beyond, as I was saying before, go beyond the Nuit Blanche, go beyond the cultural, an interesting thing about Asunción is that here you can see the retailers, and the guy in the back is the ministry. He's the Minister of the Interior of Paraguay. So they got a meeting with the Minister in the Interior, and they're actually demanding things from the government. They're demanding better lighting, they're demanding better security, and they even helped the police forces in Asunción develop a nighttime security strategy by helping them identify what are the hotspots, what are the crime hotspots in the area. So it's an example of how different instances in a city can collaborate and make the nighttime much better and much efficient. So after having understood these three pillars, so if a city can incorporate or can take into account these three elements, it can become a 24-hour city. That's basically the premise. But what are the perks of becoming a 24-hour city? If you become a 24-hour city, you can become livelier and safer, which is very, very important for cities in Latin America and the Caribbean. You can promote local innovation. You can promote identity and a sense of belonging. And you can also help boost your local economic development and your tourism. In the end, what's really important is that we live in an era where the limits between the night and the day and the limits between the personal life and the professional life are becoming increasingly blurry. So the night has become an interesting platform from which we can change things in our cities. We can promote change and achieve transformations that are positive for our cities. So my goal and our thing, my proposition to you is that we see the night, that we take the night as a platform that helps us bridge the gap between the expectations of those who live in our cities and the possibilities that the cities have to offer. By doing what? By promoting that our cities are safer, they're more vibrant and more open during the day as well as during the night. Thank you.
Thank you. And now I invite you to go down to the ground floor where we have lots of wine and food. We're running a little late. You're probably hungry.